Cher ami, j'ai beaucoup aimé ton intervention. J'ai été modeste producteur laitier pendant 20 ans, matin et soir, toute l'année, en ayant trait les vaches le soir de mon mariage. C'est peut-être pour ça que j'ai divorcé d'ailleurs. Je vais revenir aux fondamentaux. Non, je plaisante. Je vais revenir aux fondamentaux. L'agriculture aujourd'hui, une décision a été prise au début des années 70 de ne plus soutenir les prix agricoles. L'exploitation agricole est quelque chose d'excessivement lourd à mener, tu le sais, la plupart de mes collègues aussi, et le soutien au prix s'impose, voire la péréquation. Quand ils sont élevés, on met dans la caisse, et quand ils sont faibles, on intervient, parce que les petites exploitations et moyennes ne peuvent pas subir les baisses de prix, elles crèvent. La preuve, elles ont crevé. Non, je ne voudrais surtout pas qu'il arrive aux communes ce qui est arrivé aux agriculteurs. J'étais président de la FEDESA, délégué cantonal de mon département. Au début, on faisait les manifestations cantonales. Après, on les a faites départementales. Après, régionales, maintenant, on les fait à Bruxelles. Il n'y a pas plus de monde. Ayons peur que si notre nombre de communes diminue, qu'on soit encore moins écoutés. Aujourd'hui, la masse des agriculteurs est tellement faible, dans les arbitrages financiers qui sont faits, que le soutien aux prêts agricoles, ce n'est pas qu'on veuille le faire, c'est pas le faire, c'est qu'ils ont oublié de le faire. Et surtout les communes, puisque j'y reviens, je ne vais pas aborder le thème agricole aujourd'hui, quand nous serons plus 36 000 et quand nous serons peut-être 3 600, j'ai bien peur qu'on soit encore plus mal défendu qu'aujourd'hui.
Bien. Et je me plais à souligner, M. Jean-Claude, que avec la Chambre d'agriculture, nous travaillons en bonne intelligence et on s'est trouvé sur des thèmes très en phase. D'autres questions ? Sinon, les intervenants... Ah, vas-y, mon grand.
Bonjour. Vergne, maire de Mondragon. Moi, je voudrais intervenir sur les communautés de communes. Monsieur a fait allusion au divorce. Moi, je n'irai pas au divorce, puisqu'on ne peut pas faire de divorce. On nous demande à nous, les maires, de faire bien attention de ne pas faire de mariage blanc. Par contre, de l'autre côté, on nous oblige à faire des mariages forcés entre communautés de communes. Et là, vous savez, monsieur, que le divorce n'est plus possible. Dans un couple, quand il y a un mariage forcé, s'il ne divorce pas, chacun peut faire son chemin de son côté. Nous, on ne peut pas. On est obligé de marcher à marche forcée. Et ça, c'est terrible d'être quelque part dans des communautés de communes qu'on nous impose et qu'on grandit de plus en plus et qu'on est obligé de marcher à marche contrée. On nous enlève de plus en plus, comme vous l'avez dit, les compétences dans nos communes. Il faut qu'on fasse avec. Il ne nous reste que très peu de choses. Je ne sais pas aujourd'hui comment les maires ruraux pourraient faire des manifestations. Comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai été agriculteur. C'est vrai qu'on en faisait beaucoup à une certaine époque. Que peut-on faire aujourd'hui, les maires, pour intervenir et ne pas disparaître et garder un certain pouvoir dans les communes? Je ne le sais pas. Il y a une loi qui ne fonctionne pas aujourd'hui, qui fonctionne à contresens, alors je ne sais pas si vous pouvez intervenir. Quand on parle de compétences dans nos communautés, on vote à la communauté de communes et on demande l'avis à la commune ensuite. Est-ce que vous croyez que la démocratie fonctionne dans ce sens-là? Moi, pour moi, je ne le crois pas. Si on est des élus de deuxième zone et si on n'a plus rien à dire, il faudrait qu'on ait le courage de nous le dire. On en est là. Aujourd'hui, qui connaît le terrain? C'est les maires des communes rurales. Qui décide? C'est les messieurs et ceux qui sont élus dans les fauteuils parisiens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie.
C'est très bien. Tu t'es exprimé, c'est très bien. Mais je pense que Jean-Louis Pessigur, ce que tu viens d'évoquer, il l'avait dit précédemment, effectivement, qu'est-ce que nous voulons? C'est clair, c'est net. Un monde rural. D'autres questions? Sinon, eh bien, mon cher Bernard, à toi d'ouvrir le feu.
Ouvrir le feu, ce ne serait pas très judicieux compte tenu de la température ambiante. Alors, je risque d'être un peu décalé, pardonnez-moi, par rapport au thème de la journée, parce que... au Sillon, avec ses 6 000 et quelques habitants, ne fait pas partie forcément de ce que j'envisage être les communes de la ruralité. Néanmoins...
Tranquillise-toi, personne n'est parfait.
Comment ?
Personne n'est parfait, tranquillise-toi.
Non, mais c'est pas grave. On peut pas avoir que des qualités, je dis souvent. Pour autant, les interrogations que Jean-Louis Pisségur nous a fait partager concernant les transferts de compétences et de fait les pertes de compétences nous interrogent de la même façon quand nous sommes au sein de notre communauté d'agglomération. Au-delà des problématiques financières qui sont certes très prégnantes, cela pose quand même des questions de démocratie locale, selon moi. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, non, madame la conseillère régionale, je crois qu'il n'y a que toi. Non ? Conseillère régionale. Ah, pardon. Pardon, mon Dieu, pardon. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, j'en ai vu quelques-uns. Bon, peu importe. Mesdames, messieurs les maires et les élus municipaux, chers collègues, messieurs, mesdames, les représentants des services de l'État. Sylvain Fernandez m'a dit « Habituellement, le maire qui accueille le congrès présente sa commune. Tu as un peu de temps, mais ne fais pas trop long quand même. » Je vais donc essayer d'être bref. Au Sillon, 6257 habitants selon l'INSEE, un petit peu moins selon le dernier recensement. Une commune qui a bénéficié, dès la seconde partie du XIXe siècle, de la dynamique industrielle mazamétaine. Le textile d'abord, le délainage ensuite, avec les autres industries qui en découlaient, la maroquinerie, la mégisserie, et encore bien sûr le textile, ont fait les beaux jours de ce bassin mazamétain qui était alors et encore récemment le deuxième bassin d'emploi de la région Midi-Pyrénées, et qui ne l'est plus, car le renouvellement de la vieille industrie par des entreprises à fort potentiel de main-d'œuvre est d'autant plus difficile que l'on se situe loin des métropoles. C'est pour cette raison que les élus de notre bassin d'emploi demandent maintenant depuis fort longtemps que le plus rapidement possible une voie de circulation rapide rapproche la métropole toulousaine de notre bassin d'emploi et permette de faire venir des entreprises dans nos zones d'activité et surtout d'arrêter d'en perdre. Ce sera, monsieur le préfet, monsieur le sénateur, la seule sollicitation de mon discours en direction de l'État. Ossillon est une petite commune de 10 km² située entre Mazamé à l'est, Aiguefonde à l'ouest, Perrin et Pont-de-Larn au nord. 10 km² pour près de 6 000 habitants, cela donne une forte densité pour notre département. Densité liée à l'accueil de populations issues de l'immigration dans les années 60. Pendant cette période, la population ossillonnaise a triplé en 25 ans. Cette croissance est alors principalement réalisée sur la partie basse de la ville, dans ce qui a été longtemps la ZUP, et qui est en cours de mutation profonde aujourd'hui, avec d'importants programmes de réhabilitation que l'on doit à mon prédécesseur, Didier Houlès, ici présent et maire honoraire de notre commune. Ossillon, c'est aussi un urbanisme contrasté avec les anciennes rues et les habitations du village, plus haut, au sud de la commune, dans les contreforts de la Montagne Noire, des habitations plus cossues et datant des années 60 dans la plaine où nous nous trouvons actuellement, enfin un habitat majoritairement constitué de logements sociaux, même si cela a évolué au fil du temps, en tout cas originellement logements sociaux, dans la partie nord de la ville en descendant vers le Toré. Ce quartier de la Falgalarie que je citais plus avant intègre encore aujourd'hui une zone prioritaire au titre de la politique de la ville, ce qui démontre malheureusement trop bien la précarité financière d'un grand nombre de personnes qui y vivent, puisque c'est aujourd'hui malheureusement le critère pour obtenir d'être classé dans cette catégorie de quartier. De fait, cette diversité des habitants que nous avons sur notre commune, qui va de pair avec une diversité des populations, nous oblige à être attentifs aux différences. Des différences de besoins, des différences de possibilités contributives, des différences d'approche de la chose publique et des biens publics. Nous avons donc fait le choix d'être au plus près des habitants. Bien sûr, c'est là un discours commun, voire banale, à l'heure où chacun se revendique de terrain. Mais à Haussillon, nous le pratiquons, comme je pense vous le pratiquez aussi dans vos communes. Et je pense que ça doit être d'autant plus vrai que la commune est plus petite. Donc nous le pratiquons par nécessité, certes, mais aussi par conviction. Ces convictions qui nous ont amenés à réaliser deux actions qui, je le crois, illustrent bien notre façon de voir la politique communale, deux actions que je voulais vous partager. Et j'ai choisi des actions positives. Parce que jusqu'à hier soir, le discours que j'avais préparé n'était pas aussi positif que ça. Parce que, comme tout un chacun ici présent, nous vivons des moments pas forcément toujours faciles. Il y a des bonnes surprises, certes, dans notre vie communale, mais il y a aussi des mauvaises surprises. Le problème, c'est que si on parle finance, quand la mauvaise surprise est à 15 000 euros, la bonne surprise est à 3 000. Donc forcément, ça crée du décalage. Donc j'étais plus pessimiste que ça, et puis je me suis dit qu'il fallait quand même sortir en beauté de cette réunion, positivement. Donc les deux actions dont je souhaitais vous parler, je serai très bref. La première, c'est la constitution du premier conseil citoyen du département. C'est une obligation de la loi du 24 février 2014, mais nous l'avons, nous, considéré comme une opportunité de faire travailler les gens ensemble, une opportunité de les associer à la chose publique et de les faire participer à la prise de décision. On appelle ça la démocratie participative, on le raille peut-être un peu trop souvent. Peu importe le nom qu'on lui donne, l'essentiel, c'est l'intention et c'est la démarche. Parce que ça marche, le conseil citoyen donne des avis sur son quartier, sur les aménagements nécessaires, redynamise les jardins familiaux que nous avions lancés il y a fort longtemps et organise même désormais la fête du bon voisinage. Les conseils citoyens sont pensés pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, monsieur le préfet, mais fort de notre expérience, nous allons essayer maintenant d'en lancer un au village, un conseil citoyen au village. Ça a une certaine originalité. La deuxième action qui illustre bien notre façon de travailler, c'est le questionnaire à la population que nous avons lancé en 2016. Quand nous avons lancé cette idée, beaucoup étaient réservés quant aux résultats. Nous-mêmes ne savions pas trop où nous allons. Plusieurs communes ont déjà procédé à ce type d'expérience pour connaître le ressenti de leur population sur tel ou tel sujet. Êtes-vous satisfait de ceci? Trouvez-vous votre quartier propre? Voulez-vous choisir entre la version 1 ou la version B? En ce qui nous concerne, le questionnaire a demandé un long travail de préparation parce que nous souhaitions expliquer aux Haussillonnais que nous avions des contraintes. Nous souhaitions faire œuvre de pédagogie et donc chaque question était complétée d'un argumentaire qui expliquait pourquoi on devait faire ci, pourquoi on devait faire ça, ce que ça coûtait et où est-ce qu'on pouvait faire des économies. Ce que l'on demandait aux gens, ce n'était pas juste de lever le doigt en disant oui ou non. Ce qu'on demandait aux gens, c'était de se poser des questions eux-mêmes, de réfléchir et de contribuer à une réponse collective. Du coup, les questions posées n'étaient volontairement pas simplistes, comme malheureusement on les retrouve trop souvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et pour presque toutes les questions, seulement 25% des habitants souhaitaient continuer comme avant. Ça veut dire que 3 habitants sur 4 espéraient des changements dans nos pratiques. Et nous avons obtenu quand même, sur 2000 questionnaires, 400 retours, c'est-à-dire 1 sur 5, bien au-delà des statistiques que l'on attend normalement dans ce cas de figure. Voilà, j'ai souhaité vous parler de ces deux actions plutôt que de vous parler longuement d'Haussillon, pour illustrer notre démarche et partager avec vous notre satisfaction. Même si, comme dans vos communes, j'imagine, le quotidien est plus difficile que joyeux. Je pourrais poursuivre aussi avec la démarche de projet de service que nous avons initiée à l'automne dernier, avec l'ensemble des personnels municipaux, pour améliorer le service aux habitants, améliorer les conditions de travail des agents et gagner en efficacité et en productivité. Tout ça n'est pas forcément incompatible. Mais je pense que Sylvain va faire les gros yeux si je continue. Donc, si cela vous intéresse, nous pourrons en parler après nos débats. Je le redis pour ceux qui n'étaient pas arrivés ce matin lors de l'ouverture de ce congrès, mes adjoints et moi-même sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes ici chez vous, je vous l'ai dit, je vous le redis, et je vous invite à revenir lorsque vous aurez un peu de temps de libre. Ce n'est jamais, la région mazamétaine, l'agglomération mazamétaine n'est jamais loin de chez vous dans le département. La montagne noire est magnifique en toute saison et l'office du tourisme de Mazamé est rempli de personnel dévoué et accueillant. Merci à tous.
Merci Bernard, je ne t'avais pas menacé quand même, je t'avais dit, tu as quelques minutes pour exposer. Mais j'ai été très heureux de t'écouter parce que je connais ta philosophie et ta sensibilité. Et ça me conforte concernant tes actions et surtout concernant l'homme. Je le fais très court. Voilà. Monsieur le sénateur, président du conseil départemental, je te passe la parole.
Merci, cher Sylvain, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, comme ça, ce sera plus bref, chers amis. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je pense que, en tant que président du département, je n'ai pas dû trop souvent vous bouder pour différentes raisons, parce que j'apprécie cette rencontre et qu'en même temps, elle permet de nous rencontrer. Mais il s'avère que certaines dispositions législatives conduiront peut-être à ce que ce soit la dernière fois que j'intervienne en tant que président du département. Et donc, j'ai deux aspects. J'évoquerai d'une part la situation et les relations que nous avons entre l'association des maires, les élus en général et en même temps le département, et puis peut-être faire une petite incursion au niveau national compte tenu de ce que j'ai entendu précédemment. Je remercie d'ailleurs les nombreux conseillers et conseillers départementaux qui sont présents. Comme ça, je pense que ça montre aussi l'attachement du département à ce qu'est la commune et aux relations et aux intercommunalités, ce que nous avons comme proximité. Et puis, comme la représentante de la région est là, je rappellerai que compte tenu des évolutions de la loi NOTRe, nous avons des relations sereines, apaisées, fort constructives en matière économique d'une part, et d'autre part, en matière de transport. Et compte tenu de ce que j'ai entendu tout à l'heure en matière de transport scolaire, je pense qu'en pays de rugby, faire des passes longues, c'est très bien. Voilà. En attendant, je crois que ça se passe bien là aussi et qu'il n'y a pas de problème particulier. J'ai le plaisir de rencontrer certains des élus de l'association des maires, qu'il s'agisse du président ou du secrétaire général qui préside le comité des finances locales et avec lequel nous sommes amenés à échanger de temps en temps. Bon, s'agissant de nos relations avec l'association des maires, nous avons une convention. Celle-ci permet, c'est la dernière pour ces trois ans, mais nous allons, je pense, poursuivre ce partenariat qui permet effectivement, sur certains sujets, d'être très proche, et notamment, il y en a deux ou trois, notamment sur l'accessibilité des services au public, sur lesquels je serai amené à revenir, bien évidemment. Monsieur le maire d'Aussillon, c'est un grand plaisir de se retrouver dans votre commune. J'ai votre maire honoraire au conseil départemental et de temps en temps, Didier Houlès rappelle, avec ceux qui sont là d'ailleurs, hein, ce que c'est que le sud du Tarn et en même temps l'importance que nous essayons d'attacher. Alors tout à l'heure, j'ai entendu que le président Fernandez parlait du nord, du sud, de l'Est et du Sud, voilà, pas trop de l'Ouest. Mais nous avons à nous préoccuper également de l'Ouest. Bon, le thème de notre rencontre, c'était celui quel avenir pour les communes rurales. Et donc, pour le département, bien évidemment, nous avons l'habitude, dans le cadre de la loi NOTRe maintenant avec nos deux piliers, soit les populations, soit les territoires et la solidarité territoriale, bien avant que cette loi n'existe, d'avoir des partenariats, soit avec les communes d'une part, soit avec les intercommunalités, dans le cadre de ce que nous appelons les atoutantes, ce qui nous permet d'ailleurs de conventionner également avec la région sans aucun problème, et cela depuis de fort nombreuses années. Bien sûr, comme tout le monde, nous sommes pris dans cet étau avec la solidarité que nous avons à avoir avec l'État sur les finances, et donc cette difficulté de retrouver certains moyens, surtout pour les départements, lorsqu'ils ont de la solidarité à l'égard de nos concitoyens à assumer, et que lorsque l'on est dans des... Alors, la définition du monde rural pose problème, parce qu'à 6500 habitants, on se considère comme déjà urbain pour certains, et le département du Tarn, avec 400 000 habitants bientôt, lui, il est considéré comme rural. Donc, vous voyez, la ruralité et l'urbanité, parfois, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et donc, là-dessus, on se trouve pris en étau avec des dépenses sociales très importantes, des ressources qui sont amenées à baisser, notamment lorsqu'on parle de l'allocation individuelle de solidarité et qui sont de la solidarité nationale, et donc des ressources qui baissent. Il faut faire de grands équilibres pour essayer de maintenir un bien vivre chez nous, ce que vous essayez de faire dans vos communes, ce que nous essayons de le faire avec le département. Alors c'est vrai que la disparition... Alors j'ai cru comprendre qu'avec Madame Lebranchu, c'était compliqué à certains moments, mais nous aussi, parce qu'entre la clause de compétence générale que l'on remet, qu'on fait disparaître une personne qui était aussi conseillère générale et qui connaît bien les rôles et les missions du conseil départemental, c'était compliqué parfois de trouver les bons équilibres. Il faut faire avec. Nous avons une loi, nous l'appliquons. Je fais une petite aparté en tant que sénateur. Au Sénat, on est beaucoup plus posé et calme. Ce n'était pas le train de sénateur, parce qu'on était jusqu'à présent plus jeune en âge, en moyenne d'âge, qu'à l'Assemblée nationale. C'est peut-être moins le cas à partir de cette législature. Mais on essayait d'être plus pondéré. Bon, c'est vrai que les deux derniers ministres que je vais évoquer, qu'il s'agisse de M. Baillet qui était venu ici défendre la loi NOTRe, heureusement qu'il y avait des aspects intéressants sur la ruralité et les contrats de ruralité, M. le préfet, M. le sous-préfet le savent bien, bon, connaissait bien quand même la ruralité. Et M. Mézard, qui arrive maintenant, sénateur du Cantal, connaît aussi très bien cette problématique de ruralité. Mais c'est une vraie question. Et donc, nous nous sommes posés au niveau du département les questions de savoir, en matière d'attractivité de nos territoires, quels étaient les points forts ou moins forts. Et au travers de ce que nous demandait la loi, c'est-à-dire avec l'État, de faire un schéma d'accessibilité des services au public. Et au travers de ce schéma, les thématiques qui ont été abordées avec vous n'ont pas été forcément celles des compétences et du département, et celles des compétences de certaines des collectivités. Et donc, parmi les thématiques que nous avons vues poindre, il y a une très grande convergence avec ce que, bien évidemment, puisque nous sommes sur le même espace et le même territoire, il y a eu des convergences avec ce que vous avez exposé tout à l'heure sur les grandes thématiques qui sont celles que rencontrent nos concitoyens, qu'il s'agisse du haut et du très haut débit, qu'il s'agisse de la santé, ce n'est pas une compétence départementale, qu'il s'agisse des transports, de la mobilité, ou qu'il s'agisse de l'accès aux services au public. Tout à l'heure, on a parlé de la poste, par exemple, et notamment de ce que j'avais connu quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire il y a quand même quelques années, non pas le facteur guichetier, mais le facteur receveur, quoi. Voilà. Et donc, on se retrouve à peu près avec ce qu'on a connu autrefois. Donc, sur ces quatre thématiques, sur le haut et le très haut débit, bien sûr, nos concitoyens trouvent que ça ne va pas assez vite. Et comme je partage avec nos collègues cette situation, elle résulte de différents aspects. D'abord, il y a eu l'Europe et le gouvernement français qui ont décidé de mettre en place le FTTH, la fibre à domicile, et donc derrière cela, de mettre en place des schémas. Donc on a passé du temps à faire un schéma départemental. Dès lors qu'avec la région, nous nous étions entendus sur la région Midi-Pyrénées pour que chacun des départements présente son schéma. Ce schéma, lorsqu'il a été élaboré, il a fallu qu'il soit validé par la haute autorité de régulation. Ça a été une première chose. Et puis ensuite, c'est comment on met en œuvre le schéma. Et donc, certains ont lancé des délégations de services publics. D'autres ont créé des syndicats mixtes en faisant en sorte qu'avec les communes et le département, on fasse un syndicat. Nous avons souhaité, nous, travailler avec les EPCI pour faire en sorte que le département et les EPCI, et le département en régie, mettent en œuvre le schéma. Donc nous sommes allés le vendre aux différentes commissions. Et après avoir validé la première tranche sur 175 millions, 179 millions et les 57 millions, j'ai enfin reçu la lettre du Premier ministre confirmant cela. Alors, il y en avait deux. Ça a d'abord été M. Valls, on m'a dit, elle arrive, elle a été signée par M. Cazeneuve ensuite, donc nous l'avons. Mais derrière cela, il fallait l'aval de la Caisse des dépôts et consignations, c'est fait. Et il faut maintenant que nos amis de la région délibèrent, et donc le dossier est transmis à la région. Nous attendons cette réponse-là, même si sur le schéma général de la région, c'est fait. Mais il y a l'application locale, et il y a ensuite les fonds européens, et puis il y a la négociation que nous avons avec vous sur les territoires. Et je pense que là, à partir de là, la gaine mise... Le département qui a en même temps travaillé à la tarification de cela pourra demander ensuite aux différents opérateurs d'intervenir. Alors les opérateurs, ils n'interviennent généralement que sur la mise en place de la fibre, que sur des secteurs qui sont des zones où la concurrence existe. Donc pour le département du Tarn, Orange intervient sur la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et sur la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Pour tout le reste, à nous de cofinancer. Sachant que chaque opérateur peut aussi continuer à exercer son activité d'opérateur. C'est-à-dire qu'il peut vous faire de la montée en débit ici. Quand il voit que le département veut mettre du réseau, il se dit « Tiens, je vais avoir un concurrent et donc ça serait bien si mon NRA ou mon NRO, je puisse y mettre un nouvel appareil, etc. » Donc, ce qui compte, c'est d'essayer d'aller rapidement. Donc, nous avons inscrit les sommes au budget. Je sais que vous êtes très fortement en attente. Donc, nous avons... décidé de mettre en place ce que l'on appelle la conférence des exécutifs, qui n'existe pas dans la loi, mais qui permet d'échanger entre le département et les intercommunalités. Les services départementaux se déplacent sur les territoires pour présenter l'état d'avancement, qui est quelque chose qui n'est pas neutre, puisque c'est montrer sur chaque habitation comment on peut arriver à terme à mener la fibre. Donc, voilà. Donc, c'est un vrai dossier et dont les attentes sont très fortes par nos concitoyens. Parce qu'on parle d'attractivité, qu'il s'agisse de l'agriculteur, qu'il s'agisse d'une personne qui vient pour les vacances, qu'il s'agisse d'entreprises locales, qu'il s'agisse du médecin ou des maisons de santé, etc. On voit bien qu'il y a un besoin. Et donc, il faut y trouver la possibilité d'y répondre. Donc, nous y travaillons. Sur l'autre sujet, c'est celui de la santé. C'est pas notre compétence, il y a l'autorité, l'Agence régionale de santé, qui met en place son organisation. Vous avez des médecins, vous avez des corps, etc. Nous avons essayé, constatant sur le terrain cela, de mettre en place des dispositifs pour voir de quelle façon, accompagnant les maisons de santé, les maisons pluridisciplinaires de santé ou les maisons qui sont reconnues, que nous cofinançons d'ailleurs avec les collectivités, essayer de voir comment on peut attirer des professionnels de santé. Nous avons eu une réunion, monsieur le préfet était là, lorsque nous avons réuni l'université, les thésards en médecine, les syndicats professionnels de médecins, les présidents d'intercommunalités, enfin, tout un panel de personnes pour voir de quelle façon on peut essayer de montrer que le Tarn est attractif. Parce que ce n'est pas simplement qu'une question financière. Les crédits et les subventions existent pour faire venir des gens ou former des gens. La région intervient fortement. C'est aussi une question d'attractivité et de pouvoir former ces thésards et une organisation professionnelle qui permette cela. Donc nous sommes en train d'y travailler et nous avons décidé de mettre au département une personne chargée d'être le coordonnateur de toutes les initiatives qui pourraient se présenter ou des questions qui pourraient se poser là-dessus. Donc ça a été fait. Nous avons saisi d'ailleurs les présidents d'intercommunalité pour qu'ils nous donnent un référent. Et donc on va continuer. Mais ce que vous rencontrez sur le terrain, cette concurrence pour trouver des médecins, vous l'avez en milieu urbain, vous l'avez en milieu rural. Ce n'est pas qu'exclusivement la problématique du monde rural. Et lorsqu'on regarde, vous avez dans le département du Tarn 52% des généralistes qui ont plus de 55 ans. Donc ça ne fait qu'arriver. Et si vous avez même des maisons de santé, parfois vous avez des difficultés à trouver les personnes. Et donc chacun, après, c'est de la concurrence, essaie de trouver ou de professionnaliser ou de payer un médecin. Ensuite, on vous demande un local, on vous demande même parfois du secrétariat, on vous demande de plein de choses. Tous les départements sont dans la même situation. Donc cette démarche que nous engageons auprès des étudiants, il faut les entendre. Ils n'ont pas envie de travailler comme on le travaillait autrefois. Et donc, c'est une question d'organisation et de mode de vie. Et donc, vrai problème. Donc, nous y sommes très attentifs et nous y travaillons. L'autre problème, c'était le transport. Bon, la loi a fait qu'on avait engagé avec une société publique locale d'un point à l'autre une approche d'organisation des transports. Celle-ci allait aller de plus en plus vers le transport à la demande. Bon, la région a repris le flambeau et nous avons travaillé de concert. Et en matière de transport scolaire, nous avons toujours souhaité la proximité avec la FEDERTEP, cette organisation territoriale qui connaît bien le territoire et qui, parfois, par rapport au transport scolaire, dans le peu de temps pour organiser les transports, demande certaines réflexions. Voilà. Enfin, un autre point, c'est celui des services au public, de la boulangerie à la pharmacie, à la gendarmerie, au bureau de poste, etc. etc. Donc c'est un sujet que nous avons abordé. On a essayé de faire une cartographie. On n'est pas parti de rien. On est parti de ce qui se passait et qu'on en avait déjà travaillé au niveau de la poste. Vous vous en souvenez peut-être. Nous avions essayé avec la commission départementale de présence postale que je préside et le président de l'association, cher Sylvain, de voir de quelle façon, entre les points de présence postale, qui sont soit des bureaux, soit des agences communales, soit des relais commerçants, et qui n'ont pas les mêmes services, voir de quelle façon on pouvait organiser l'ensemble pour que dans un rayon relativement, même si la loi le précise, dans un rayon relativement proche, on puisse trouver une organisation en la matière. Je pense qu'on avait pas mal avancé, c'était posé beaucoup de questions sur les heures d'ouverture, etc. Puis il y a un contrat entre l'État et la Poste, il y a un grand travail qui est fait avec l'Association des maires au niveau de l'Observatoire, et je suis à l'Observatoire et je vois le travail qui est fait par l'Association des maires de France. Et donc dans le cadre de cette convention, eh bien, il y a une vraie proximité et on voit ce que l'on peut faire. Et donc ça nous a amené à regarder sur le territoire cette organisation. Et ça a permis, notamment avec le schéma que nous allons vous faire valider, vous allez émettre un avis, ensuite ça passera à la région et puis ça repassera à l'Assemblée départementale et monsieur le préfet sera amené à caler cela. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui sera évolutif, c'est pas quelque chose qui est imposé, mais ça nous donnera une vision du territoire et par rapport aux intercommunalités, bien une organisation aussi qui permet de voir quelles seront dans le temps les problématiques et les points difficiles que l'on pourra rencontrer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. sachant que pour l'Assemblée départementale, on continuera à intervenir dans le cadre des conventions. Je pense que cela ne devrait pas poser problème. Sur un sujet que nous avons abordé récemment, c'est la mise en œuvre de GEMAPI. Et vous avez soulevé ce problème ici. Lorsqu'on parle de l'assainissement communal, ça s'organise bien. Lorsqu'on évoque les problèmes de l'eau, alors sur l'eau, c'est le cycle de l'eau, c'est large, l'eau. Ça peut être, avec la CATER, l'entretien des rivières et certains syndicats, ça peut être des syndicats de distribution d'eau, ça peut être des problématiques qui ne recoupent pas forcément les intercommunalités, qui peuvent couvrir plusieurs intercommunalités. Nous avons sollicité Sylvain Fernandez pour dire qu'il faudrait qu'on puisse en parler. Alors, le département, à la limite, pourrait s'en laver les mains et dire on regardera ça de loin, même si on a le SATES, même si on a des outils. Je crois qu'il faut que nous puissions y travailler. 2018 arrive, 2020 va être là aussi. Et donc, je crois que c'est un vrai sujet et qu'on ne peut pas s'en saisir comme cela ou laisser certains de nos directeurs ou secrétaires généraux il faudrait que ça s'organise comme ça et on peut mutualiser et travailler différemment. Donc, la chose est dite. Ça c'était la partie, je dirais, en tant que président du conseil départemental, sachant qu'on va continuer comme cela. Sur la partie Sénat, il y a deux ou trois petites choses que je voudrais dire au travers de ce que j'ai entendu. D'abord, nous sommes conscients qu'il faudrait une certaine stabilité. Les élus que nous sommes tous voient les différentes lois arriver. Chacun veut avoir une loi qui porte son nom ou avoir à l'intérieur son amendement, ce qui donne parfois des textes illisibles et qui sont revus très rapidement. Donc une certaine stabilité. Je crois que du côté du Sénat, il y avait cela. Il y a de la même façon du côté de l'État. Petit à petit, on y rentre, des évaluations avant la loi, et puis en même temps, lorsque la loi est votée, avoir déjà les décrets d'application, parce que sinon, parfois, si ça ne va pas tout à fait dans le sens que souhaitent certaines administrations, les décrets sont longs à prendre. Donc il y a un suivi, effectivement, à faire là-dessus. Mais le dernier sujet que nous avons évoqué au niveau du Sénat, deux commissions, c'est sur les rythmes scolaires notamment, et les sénateurs qui étaient présents, deux de la commission des finances et deux de la commission de la culture, je vais vous donner les noms et vous verrez que ce n'est pas forcément des couleurs politiques, c'était un beau mélange. Il y avait Madame Jouve, Monsieur Carle, Monsieur Longuet et Monsieur Foucault. LR, UDI, LR et PC, à peu près. Donc, qu'est-ce qu'il en a résulté par rapport à cela ? D'abord que l'évaluation de ce qui s'est passé en matière de rythme scolaire n'avait pas eu lieu forcément. Je vous ai envoyé un petit document là-dessus. Bon, de temps en temps, on entend quand même le problème du coût. Et si au niveau de l'État, quand on avait mis en place cela, on avait pensé que, puisque c'était du périscolaire, ça ne dépendait pas de l'État, on a quand même réussi petit à petit à obliger et à faire en sorte que la dernière ministre revienne là-dessus et qu'on ait quelques crédits pour pouvoir financer ces NPA. La semaine de 4 jours, elle intéresse beaucoup de monde. Elle intéresse parfois les familles. 4 jours, si on a du temps, c'est bien. Elle peut intéresser aussi les enseignants. 4 jours, c'est bien. Il y a l'intérêt de l'enfant. Donc, ce que nous avons essayé de dire, c'est qu'il fallait quand même que, si ça se passait comme cela, qu'on ne charge pas à bloc ces 4 jours et qu'on essaie d'étirer le calendrier scolaire sur la période des grandes vacances. Parce que sinon, vos gamins, ils seront complètement épuisés. Et donc, c'est ce que l'on a essayé de présenter en disant que pour nous, on était relativement réservé sur certaines choses et qu'on aille vraiment à l'évaluation. Alors, on comprend très bien ce qui se passe dans certaines communes sur les moyens, pas forcément financiers, même si parfois ils y sont, sur les moyens aussi humains pour trouver des personnes adaptées, capables de pouvoir assurer cela. Et c'est pour ça qu'on avait dit que peut-être, plutôt que de le faire tous les soirs, il y avait peut-être des dispositions pour que ça se fasse qu'à une après-midi et que ça se règle un peu différemment. Voilà. Mais aller plus loin. Donc, sur ce point. L'autre point, c'est celui du CFL, du Comité des Finances Locales. Alors, il ne faudrait pas qu'une réforme qui viserait à faire en sorte que la taxe d'habitation soit plafonnée et pour effet de dire, puisqu'on a fait cela et qu'il y a moins de gens qui seront concernés, on ne touche pas aux valeurs locatives. C'est le serpent de mer, les valeurs locatives. On voit le bazar que c'est pour les commerces et donc les BNC, etc., où là, il n'y a que 3 millions qui sont concernés, alors que les habitations, c'est près de 30 millions. Et les disparités que vous rencontrez les uns et les autres dans vos communes, tout le monde y a droit. Donc et ça se répercute sur les vins, sur la taxe foncière, sur la propriété bâtie, etc. Il n'y a pas que la taxe d'habitation. Donc moi, je plaide pour que les valeurs locatives, on y regarde. Alors il y a une expérimentation en cours qui est dans 5 départements. Voilà, il faut aller un peu plus loin et voir ce qui va se passer là-dessus. Puis sur les dotations, c'est illisible. Vous n'y comprenez rien. Et ceux qui sont au comité des finances locales, il faut que dans leur secteur, ils soient très spécialisés. Et donc, on a des gens très spécialisés, mais c'est illisible. Et donc, pour vous expliquer pourquoi chez vous ça baisse ou ça augmente, et si vous rajoutez un petit peu le fait qu'il y a moins d'argent et que quand on fait une réforme, il vaut mieux avoir un petit peu de saupoudrage et faire certaines choses pour que ça passe mieux, eh ben, c'est encore plus dur. Donc, là-dessus, on le voit bien. Vous avez le poids des uns et des autres. J'ai vu pourquoi la DGF n'avait pas abouti, même si vous avez dans votre département un sénateur qui l'a bien porté, la réforme. J'ai vu, dans la même tendance politique d'ailleurs, des sénateurs maires de communautés d'agglomération mettre le frein à main pour éviter que chez eux, dans une enveloppe donnée, eh ben, on pique aux uns pour donner aux autres en matière d'équité. Alors, je ne parlerai pas de richesse, parce que personne n'est riche dans ce pays. Il n'y a que des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Voilà. Et donc, là, il y a un vrai sujet. Mais c'est la même chose pour les départements. Vous savez, les départements, on a fait une réforme de la DGF et on a donné de la péréquation. Alors, sur la péréquation, vous avez 100 départements métropolitains. Et bien, vous en avez 30 qui sont, ou 35 qui sont à la dotation de péréquation urbaine. Et tout le reste est à la dotation de péréquation rurale. Donc, tout le monde a de la péréquation. À la fin, comme l'enveloppe se réduit, ben, c'est ce que qui a été dit, la péréquation ne sert plus à rien. Parce qu'elle est contre-productive par rapport aux dotations que l'on a de garantie au départ. Donc, c'est un vrai sujet. Et je pense que tout ce qui est demandé pour avoir un vrai, d'abord, budget des collectivités territoriales, comme on a un budget de la sécurité sociale ou comme on a un budget de l'État, ça serait une bonne chose. Ça a été demandé, le gouvernement l'avait accepté, j'espère, le précédent, j'espère que l'on continuera là-dessus et qu'il y ait de vrais échanges et non pas de rencontres comme certaines auxquelles j'ai participé, où l'État vient, le ministre vient, lit son papier et puis merci. Et puis, il n'y a plus rien à dire. Donc, là, il faut qu'il y ait de vrais échanges. Et il y a de vrais sujets. Voilà. Un dernier point que je voulais aborder, c'est celui de l'État facilitateur. Je pense que vous avez un rôle, les services de l'État, dans une période aussi compliquée, de faciliter et d'accompagner les collectivités territoriales. Les lois que certains ont voté, dont parfois je faisais partie, ou je fais partie, parce qu'au Sénat, c'était un peu plus compliqué. On ne les a pas toutes votées. Hein. On n'avait pas besoin de faire cela. C'est l'Assemblée nationale qui le faisait. Mais je pense que vous avez un vrai rôle de facilitateur, pour que vous accomplissez d'ailleurs, mais qu'il faut conforter. Et non pas simplement que du contrôle de l'égalité, parfois, qui est compliqué et qui nous pose problème. Donc, quand je dis facilitateur, vous avez évoqué le problème du désenclavement du bassin de Castres-Mazamet. Nous étions dans une réunion avec monsieur le sous-préfet, qui vous représentait, monsieur le préfet, avec les élus du conseil général, du conseil régional de la Haute-Garonne, du conseil régional, et nous avons évoqué la route RN126 qui nous préoccupe tous. Et donc nous étions en réunion parce que maintenant il y a eu l'enquête publique, le dossier va partir au Conseil d'État et il fallait que derrière cela, on évoque un sujet qui est celui de la sécurisation des financements. Et donc, si on va vers une concession, il faut trouver 230 millions. Et 230 millions, vous avez 115 qui sont portés par l'État et le reste, les collectivités locales. Et donc, nous avons trouvé un accord de discussion. Mais dans le cadre de cet État facilitateur, j'ai demandé à monsieur le sous-préfet de voir de quelle façon tous les élus des intercommunalités pouvaient se mettre autour de la table et pas simplement, comme cela, des idées lancées par le président de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet. Que tout le monde discute autour de cette table sur cette sécurisation des financements. Voilà. Je pourrais en rajouter, mais je pense que ça plombe suffisamment avec la chaleur. Et puis j'ai encore deux intervenants qui doivent parler. Je tenais à vous remercier pour ces échanges, parce que je crois que ce n'est pas ici, là, on donne certaines informations. Mais les échanges, c'est tout au long de l'année. La façon dont nous avons de travailler de concert, service de l'État et en même temps service de l'Association des maires et Conseil départemental. En attendant, merci beaucoup.
Simplement deux choses avant de passer la parole à Mme Claire, ensuite à la région. Thierry a dit qu'effectivement, il a fait allusion à son futur départ. C'était ton dernier congrès départemental en tant que président du Conseil départemental. Je précise. Alors du coup, il me l'avait dit il y a quelques temps en arrière, et on a programmé le congrès au mois de juin. Alors que je souhaitais le faire en septembre, il m'avait dit, en septembre, je pense que je ne serai plus président du conseil départemental. Alors comme des liens d'amitié nous lient depuis de nombreuses années, j'ai tenu à ce qu'il soit là. Et je rebondis en disant que tu as évoqué ce qui nous lie aussi, l'AMF et le conseil départemental, concernant cette petite subvention, quand je dis petite, je l'ai fait sciemment. Donc, on a re-signé pour 3 ans, et j'ose espérer que ton successeur renouvellera à l'avenir cette subvention que vous nous octroyez. Je ne cite personne, mais au moins que ce soit entendu par certains dans cette salle. Or, c'est en off, c'est en off. En off. Claire, à toi d'intervenir, parce qu'après, il y a monsieur le préfet.
J'ai eu des regards très inquisiteurs, mis en cours. Hein. Oui, promis. Mais Jean-Louis me dit, mais te laisse pas faire quand même, te laisse pas faire. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, président du conseil départemental, monsieur le président de l'association des maires, monsieur le maire d'Ossillan qui nous accueille aujourd'hui, merci beaucoup. Et cher monsieur Puységur qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Eh bien, et chers élus, hein, chers collègues, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors je vous prie tout d'abord de m'excuser, je vais devoir vous quitter juste après mon intervention. J'ai une autre manifestation dans le nord du département et c'est vrai qu'il y a quelques distances. Notre département est grand, il est beau, mais c'est vrai que pour le parcourir, nous avons besoin de quelque peu de temps. Je voulais vous remercier, te remercier, cher Jean-Louis, de ton intervention ce matin. Je crois que c'était des éclairages importants que tu nous as apportés et nous avons besoin de ta parole pour nous défendre justement à Paris. Paris a besoin de notre accent, je pense. Il a besoin de notre vision des choses et de notre réalité. Cathy Épinol nous a quittés, mais je voulais la saluer. Elle a été parmi nous la majorité de ce congrès. Et donc vous dire que oui, c'était important d'être avec vous ce matin parce que ce congrès départemental est toujours un moment important pour nous tous. Et le thème de ce matin sur la ruralité, eh bien, est au cœur véritablement des préoccupations régionales. Et c'était ce que je voulais vous dire très brièvement, je vous le promets, en cette fin de congrès et de matinée. Notre région Occitanie, on le dit souvent, et c'est vrai, c'est d'abord deux métropoles, Toulouse, Montpellier. Mais ce qu'on dit moins, et qui est tout autant la réalité, c'est que plus de 50% de sa population vit en zone rurale. Sur 215 bassins de vie, 167 sont des bassins de vie ruraux. Et l'engagement de la région est clair. Notre présidente veut agir et nous agissons en faveur de l'égalité entre les territoires. Notre ruralité, ici, dans le Tarn, comme dans toute notre région, a des enjeux très forts sur lesquels nous souhaitons agir avec vous. La région Occitanie s'engage notamment sur trois enjeux, il y en a beaucoup, mais il faut circonscrire, qui concernent particulièrement nos territoires. Les transports, les réseaux numériques et l'aménagement du territoire, avec notamment des nouvelles politiques volontaristes que nous allons mettre en place. J'irai très vite, mais d'abord sur les transports qui ont déjà été évoqués, deux actualités régionales importantes. Les états généraux du rail et de l'intermodalité, où j'espère vous avez pu participer, et le transfert des compétences scolaires et interurbaines aux régions. Donc oui, voilà, le ballon, il est bien transmis. Et je voudrais d'ailleurs à ce sujet souligner la qualité du travail effectué et la qualité du service rendu par notre SPL départemental ainsi que par la FEDERTEP. Le modèle tarnais, sachez-le, est montré en exemple dans notre région. Et je voudrais saluer le président du conseil départemental, Thierry Carcenac, pour l'investissement massif qui a été réalisé par le Tarn. Et soyez convaincus que ce volontarisme sera poursuivi. Toutes les politiques qui seront développées dans ces chantiers en lien avec les transports poursuivent pour nous des objectifs clairs. Renforcer l'attractivité de nos territoires, et notamment ruraux, mieux desservir l'ensemble de nos concitoyens en transport collectif, et enfin renforcer cette égalité d'accès sur tous nos territoires. Et c'est parce que nous poursuivons ces objectifs que notre présidente soutient aussi et fortement le projet actuel de concession autoroutière Castres-Toulouse. Ensuite, les réseaux numériques. L'attractivité de nos territoires ne sera renforcée qu'à condition que les réseaux numériques permettent à chacun de nos habitants de disposer d'un débit suffisant pour développer une activité, mais je dirais tout simplement pour vivre. 122 millions d'euros pour le plan très haut débit en région, parce que l'accès à Internet doit devenir un droit et partout. Ensuite, l'aménagement du territoire, donc comme je vous disais, avec des politiques volontaristes renouvelées. Donc, elles vont être adoptées, sachez-le, le 30 juin, donc la semaine prochaine, en assemblée plénière de la région, et le 7 juillet en commission permanente. Cathy Pinol, en tant que présidente de la commission aménagement du territoire, pourrait aussi, bien sûr, largement les développer. Cette nouvelle génération de politiques, sur la période donc 2018-2021, qui s'est notamment appuyée sur la concertation menée dans le cadre de l'Assemblée des territoires, s'attache à deux finalités prioritaires. La première, accompagner les projets structurants de nos territoires. Et là, notre méthode, elle est simple, l'écoute. Nous serons sur du sur-mesure, parce que les territoires en ont besoin. Nous rencontrerons, et cela a déjà commencé, mais bien sûr va se poursuivre, chaque territoire de projet, alors selon le territoire, ça peut être un périmètre différent, et pour essayer bien sûr de comprendre et répondre à vos ambitions. Donc une contractualisation bien sûr qui en découlera. La deuxième finalité, et pour nous elle était importante, et je pense que c'est aussi, j'espère que vous le constaterez avec nous, un des arguments pour lequel cette nouvelle région Occitanie va apporter plus, je pense, à nos territoires. Nous voulons intensifier notre accompagnement des communes, et en particulier des communes rurales. Nous élargissons nos dispositifs d'aide aux communes. Vous connaissez déjà nos interventions sur l'accessibilité, la rénovation énergétique, qui sont bien entendu maintenues. Et d'ailleurs, à la prochaine décision budgétaire modificative qu'on va adopter le 30 juin, plus de 2 millions d'euros vont venir abonder ces lignes pour répondre à vos demandes, parce qu'elles sont nombreuses. Mais nous allons aussi maintenant intervenir de manière plus massive, donc je vous le disais, pour les communes rurales, sur les espaces publics, sur les espaces associatifs, sur les commerces de proximité, chose que nous ne faisions que partiellement auparavant. Nous créons aussi un nouveau dispositif de revitalisation des bourgs-centres et le fonds régional d'intervention, le fameux FRI, je sais que vous connaissez bien ici, se poursuit, mais en complémentarité avec cet élargissement des interventions. Nous avons souhaité bien sûr partager notre réflexion avec les territoires de projet, donc, mais aussi, je vous le dis, densifier notre action en faveur des communes. Nos bassins de vie ruraux en ont besoin. Nous ne pourrons répondre efficacement à ces enjeux que sont les transports, le numérique, l'investissement de nos communes et de nos intercommunalités, l'émergence et la mise en œuvre de nos projets que si nous garantissons une proximité devenue essentielle, notamment dans notre grande région maintenant Occitanie. Cette proximité, nous avons commencé à la mettre en œuvre dans un véritable effort d'approfondissement de la concertation. Je vous parlais tout à l'heure de l'Assemblée des territoires. Mais nous allons la renforcer avec la création d'un guichet unique de la ruralité au sein des maisons de la région qui vont voir le jour, bien sûr notamment dans notre département du Tarn. Nous délibérons le 7 juillet sur la création d'une maison de la région à Albi, dans la proximité immédiate du conseil départemental, pour faire simple, et bien sûr en face de la préfecture, un accueil de proximité avec des techniciens pour répondre à vos questions concernant toutes les politiques régionales, que ce soit du développement économique aux politiques territoriales, en passant par l'éducation avec les lycées, les transports. Alors nous avons des travaux assez importants à réaliser, donc elle ouvrira début 2018, et sachez que nous commençons dès à présent la réflexion pour ouvrir une antenne sur Castres. La proximité est une des conditions d'une meilleure efficacité de nos politiques publiques. Voilà un an et demi que notre région Occitanie est née, 3,5 milliards de budget. Alors, c'est la présidente de la commission des finances forcément qui vous le dit, pour les lycées, l'économie, les transports, l'aménagement du territoire, l'environnement. Et nous vous proposons déjà, vous y avez sans doute déjà participé, des rendez-vous réguliers pour concerter sur nos différentes compétences. Alors je vous propose pour conclure eh bien, d'en noter un prochain rendez-vous, celui du 28 juin à 18h à Saint-Amand-Soult. J'ai vu tout à l'heure le maire, voilà. Donc nous serons chez toi, Daniel, cette instance. Donc cette concertation, ce sera pour commencer à travailler sur le futur Parlement de la montagne. Donc cette instance, elle aura comme mission de développer une nouvelle politique pour ces territoires de montagne qui ont de réelles spécificités et qui font d'ailleurs une des nombreuses spécificités de notre région. Vous le voyez, la ruralité sous toutes ses formes est au cœur des préoccupations régionales. Notre région Occitanie et sa présidente, Carole Delga, souhaitent véritablement s'engager à vos côtés pour nos territoires qui font notre richesse. Et s'engager pour nos territoires sans exception, et s'engager pour nos territoires sans exception, mais aussi s'engager en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin. Et notre ruralité fait partie des territoires qui ont le plus de besoin. Mais j'aurais pu aussi décliner notre volontarisme sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui concentrent aussi de nombreux enjeux. Au lendemain des changements que nous venons de vivre, sachez que votre région et sa présidente défendront toujours ces territoires qui font l'Occitanie et qui font la France. Merci à tous de votre attention. Ça a été ? Ça a été ?